La nomination d'Adolphe Monsiteau le 10 octobre 2008 pour remplacer Antoine Gizenga, le premier ministre qui venait de démissionner, le sujet était aussi au centre du dialogue entre Congolais animé par Claude Kianda. Mon confrère recevait Zénon Moukouakani, député national et président du groupe parlementaire PALU à l'Assemblée nationale, Emery Okundji, député national des FONUS et allié de l'ODER, une plateforme de l'opposition, et puis Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, allié de la Fédération internationale des droits de l'homme.
Cette émission Dialogue entre Congolais est une rétrospective de quelques grands moments de nos débats au cours de l'année qui s'achève.
Le MLC a pris acte de la nomination d'Adolphe Monsiteau comme Premier ministre. Ces précisions émanent du secrétaire exécutif du MLC et député national Thomas Louaka qui souligne qu'étant de l'opposition, ils veilleront à ce que le plus vite possible les préoccupations de la population soient prises en compte. Thomas Louaka a été joint au téléphone par notre confrère Guy Maté.
Nous avons simplement pris acte de la décision du chef de l'État. Nous espérons tout simplement que le plus rapidement possible, M. Monsiteau va former son équipe gouvernementale et se mettre rapidement au travail. Déjà, nous espérons que M. Monsiteau ait la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels, parce que vous savez, entre autres, ce qu'on reprochait au Premier ministre sortant, le patriarche Gizenga. Nous espérons cette fois-ci que, conformément à notre constitution, M. Monsiteau va réellement être le chef du gouvernement et impulser une vraie politique. Que nous attendons de lui, tout simplement qu'il puisse affronter le défi que connaît le peuple congolais aujourd'hui. À titre d'exemple, vous avez la guerre qui est arrêtée à l'est, dans le nord Kivu, vous avez dans la province orientale en Ituri, la situation sociale aujourd'hui est catastrophique, les enseignants, les parents qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, tous ces défis doivent être rencontrés le plus rapidement possible.
Nomination bien accueillie du côté des syndicalistes. D'après le secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, Jean-Pierre Kimbuya, il était déjà convenu avec Adolphe Monsiteau, alors ministre du budget, de l'uniformisation à travers le pays du barème salarial au regard des accords de Ngouti. Jean-Pierre Kimbuya, une fois de plus, au téléphone de notre confrère Guy Maté.
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons accueilli cette nomination, dans la mesure où M. Adolphe Monsiteau est un homme ouvert au dialogue. Nous avons eu à discuter avec lui pendant des mois autour des problèmes sociaux professionnels des enseignants ainsi que des agents et fonctionnaires de l'État. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui connaît bien l'état d'exécution du budget de l'État. Et je pense que s'il a les mains libres, il peut beaucoup faire par rapport aux défis sociaux qui se présente actuellement dans notre pays.
Et qu'est-ce que vous attendez de lui?
Il est d'abord vraiment à la pleine confiance du chef d'État. Je sais qu'il en a, du fait qu'il a été nommé. Et il y a le Front social qui est en ébullition dans les milieux des enseignants de l'EPST et dans les milieux des professionnels de santé. Mais je sais que M. Adolphe Monsiteau a l'esprit d'anticipatif. Il va bientôt défendre le budget au niveau du Parlement. Je pense qu'il faut qu'il tienne compte des différentes revendications qui ont été formulées.
Merci beaucoup, Zénon Moukouakani Gaungu, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous êtes député national et président du groupe parlementaire du parti lumumbiste unifié, PALU, à l'Assemblée nationale, donc le parti du Premier ministre Adolphe Monsiteau. Le chef de l'État reçu cet après-midi, le nouveau chef du gouvernement, de quoi ont-ils parlé?
J'imagine, je n'ai pas vu le Premier ministre après avoir été chez le président, mais j'imagine qu'il est allé certainement lui faire rapport de ce qu'il a pu recueillir après sa nomination et surtout présenter au chef de l'État la taille de son gouvernement, comment il va le former, avec quelle force. Je crois que c'est de cela qu'ils ont parlé.
Et c'est quoi la taille de ce gouvernement?
La taille du gouvernement, c'est lui qui va la déterminer. Hein. Il peut garder le nombre de ministres qu'on a maintenant pour qu'on puisse augmenter pour des raisons techniques. C'est lui, c'est à lui à décider, c'est lui le chef du gouvernement.
Monsieur Moukouakani, d'après certaines sources, le gouvernement pourra, disons, être publié, le nom des membres de ce gouvernement pourrait être publié la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Moi, je le souhaite, parce que avec tout ce qu'on a comme problème, il faut qu'on aille vite. Nous venons d'avoir une réunion de l'AMP IDEMO PALU, et le souhait de tout le monde est que on puisse former ce gouvernement dans les délais les plus brefs possible.
Merci beaucoup. Nous avons également dans ce studio M. Emery Okundji. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition, membre des forces novatrices pour l'Union et la Solidarité pour l'US, donc le parti de l'Enankoy. Vous êtes aussi allié de l'Ordre des démocrates et républicains, une plateforme de l'opposition. Comment, au niveau de l'opposition, avez-vous accueilli cette nomination?
Eh bien, c'est sans surprise que nous avions accueilli cette nomination. Nous constatons là que le chef de l'État a tenu à respecter les accords signés après le premier tour des élections présidentielles. C'est que nous souhaiterions, la question que nous nous posons, et c'est que le premier ministre qui remplace Antoine Kizenga et qui est du même parti politique que lui, je dirais en quelque sorte son dauphin, est-ce qu'il va changer le système ou il restera dans le système? Est-ce qu'il sera autonome ou non? Puisque, vous savez, le vrai problème est qu'il faut changer la gouvernance du pays. Donc, il est peut-être prématuré de porter un jugement sur lui. Et nous attendons qu'il nous présente un programme politique à l'Assemblée nationale, qu'il forme son gouvernement et nous allons le juger sur le terrain. Mais nous espérons qu'il sera un premier ministre qui va, en tout cas, qui sera jaloux de ses prérogatives constitutionnelles. Puisque nous avons l'impression aujourd'hui qu'on est en train de diriger la République en marge de la Constitution.
Et pourquoi vous dites que c'est sans surprise que vous avez accueilli la nomination du nouveau Premier ministre?
Eh bien, c'est puisque les accords ont été signés entre l'ANP, le PALU et l'IDEMO. Et dans ces accords, il était dit que le PALU aura la primature durant toute la législature.
Mais il y avait quand même des supputations au sujet d'autres personnalités autres que celles émanant du PALU, du PPRD, par exemple, qui pouvaient prendre
également ce poste. Effectivement, notre souhait était de voir qu'on ne s'attienne pas à des accords politiques au regard de la gestion de la chose publique. Au regard de des années de gouvernance de M. Antoine Kizenga, qui a été caractérisé par l'immobilisme, qui a été caractérisé, même pas dans son chef propre en tant que premier ministre, mais au sein de son équipe gouvernementale par des antivaleurs. Je veux dire, la corruption a élu domicile, l'impunité, toutes sortes, la grogne sociale. Nous disons qu'on allait se servir de ce passé, en tout cas qui n'est pas très bon pour améliorer l'avenir.
Merci beaucoup. Je rappelle tout simplement à nos auditeurs que nous avons également en ligne depuis Kisangani dans la province orientale, Monsieur Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et chef des travaux à la faculté de droit à l'université de Kisangani dans la province orientale. Parmi les défis auxquels devra faire face le premier ministre, comme l'ont relevé certains de nos invités ici, il y a par exemple le défi sécuritaire, et justement vous êtes dans une province assez trouble de la République démocratique du Congo, c'est pourquoi vous êtes dans cette émission. Comment avez-vous accueilli la nomination de ce nouveau Premier ministre?
Merci beaucoup. Il faut dire que la population de la ville de Kisangani, la province orientale en général, avait accueilli la nomination de ce nouveau Premier ministre avec surprise, avec attentisme et aussi avec réserve. Pourquoi avec surprise? Puisque beaucoup de gens parmi la population de la province orientale ne s'attendaient pas à voir M. Adolphe Mouzito être nommé. Il s'attendait à une grande figure politique, du genre Vital Kamerhe, Mandy Moulumba et tout ça. Et les gens croyaient que le président de la République, comme il avait dit dans son message, il pouvait nommer un homme de la situation. Et pour eux, un homme de la situation, ça devait être un homme politique de grande statut. attentisme, puisque les gens espèrent que le nouveau Premier ministre a beaucoup de défis. Hein. Les défis, c'est d'abord sécuritaire, et au niveau de la province orientale, à Nitouri, c'est arriver à mettre fin au conflit, c'est-à-dire désarmer les groupes de milices qui sont là, établir l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province, parce que vous savez que nous avons non seulement le problème à Nitouri, mais aussi au Bas-Zélé et au Touélé avec le Mbororo. Donc il faudrait qu'on arrive vraiment à maîtriser tous ces gens. Le Mbororo, il n'y a pas que le Mbororo, il y a aussi les LRA, hein, l'armée de résistance du Seigneur, le mouvement rebelle ougandais qui fait des rats. Alors tout ça, ce sont des défis. Mais quand je dis aussi avec réserve, c'est que les gens sont en train de dire que ça ne sera pas la continuité du gouvernement d'Izenga qui, à un niveau, n'a pas donné satisfaction à toute la population. Alors il y a beaucoup de défis. Parmi ces défis, en dehors des questions sécuritaires, il y a des questions sociales. Hein, la province orientale est une province martyre, mais où les gens ont beaucoup, perdu beaucoup de choses, beaucoup de biens pendant la guerre. Mais il y a aussi des fonctionnaires, beaucoup d'enseignants. Et les gens, prioritairement, ont soif de vivre. Ils ont envie de vivre, ils ont envie d'avoir un salaire qui puisse leur permettre de tenir le coup. Mais ils ont besoin également d'avoir la capacité d'élever leurs enfants dans la dignité, mais aussi de reprendre toute la vie. Donc les questions des défis sociaux, des défis économiques, puisque les cinq chantiers du chef de l'État qui constituent la priorité du gouvernement, les gens de la province orientale n'ont pas encore vu ces chantiers démarrer. Merci. Alors ils sont aussi attentifs sur ce point.
Merci beaucoup, on vous garde aussi dans cette émission. Je me tourne de nouveau vers vous, Monsieur Moukouakani. Je rappelle que vous êtes député national, membre du PALOU et président du groupe parlementaire du PALOU à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi avec moi Thomas Louaka, secrétaire exécutif du MLC, qui espère que cette fois-ci, le Premier ministre jouira de tous ses pouvoirs. Et Monsieur Emery Okundji, il a aussi relevé. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur dis que d'abord, le Premier ministre a la jeunesse à relever. C'est un jeune, dynamique, et comme tel, c'est déjà un atout pour lui. C'est-à-dire qu'il va travailler réellement pour le pays. Le pouvoir constitutionnel, vous savez, il les exercera. Il va exercer ses pouvoirs constitutionnels.
Non, parce que de plus en plus de voix s'élèvent pour pouvoir dénoncer un certain gouvernement parallèle qui existerait dans ce pays.
Oui, mais ce gouvernement parallèle...
Et qui aurait empêché le précédent Premier ministre de pouvoir fonctionner normalement, d'après certaines personnes.
Non, mais moi, personnellement, je ne crois pas. Ça veut dire que je n'ai pas vu là où le gouvernement a voulu poser un acte que le gouvernement parallèle l'a empêché. Je n'ai pas d'exemple. Qu'on donne un exemple.
Adolphe Mouzito, comme nous l'avons dit, est devenu Premier ministre grâce à la démission d'Antoine Gizenga. Qu'est-ce qui avait poussé le leader du PALOU à la démission? Nous en avons parlé avec deux députés nationaux, Maître Jean Bouillot du PPRD et Raymond Louété du PALOU, ainsi que Germain Kambinga, porte-parole du MLC.
Cette émission Dialogue entre Congolais est une rétrospective de quelques grands moments de nos débats au cours de l'année qui s'achève.
Le Premier ministre Antoine Gizenga a déposé sa démission le jeudi à Kinshasa auprès du président de la République. Qu'est-ce qui justifie cette démission? Je vous propose de suivre le Premier ministre Antoine Gizenga, extrait de sa déclaration sur la radio-télévision nationale RTMC.
On peut aujourd'hui affirmer que le pays commence à reprendre le bon cap et à connaître une vraie dynamique de redressement et de refondation. Il faut tenir bon et avancer avec détermination. Cependant, pour tout homme, même si l'esprit peut encore être sain et alerte, le corps physique a ses limites dont il convient de tenir compte. C'est pourquoi, après près d'un demi-siècle de lutte pour la cause nationale et plus de 600 jours d'exercice de fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai décidé en ce jour de présenter ma démission de ce poste auprès du président de la République, chef de l'État. J'ai déposé la lettre y afférente ce jour à 10h. Nous aurons la réponse du président de la République lorsqu'il lui plaira de nous la faire savoir.
C'était là Antoine Gizenga. Je vous rappelle que nous recevons Maître Jean Bouillou, député national PPRD, cadre de l'Alliance de la majorité présidentielle, Germain Kambinga, porte-parole du MLC, Raymond Louété Katembo, député national du Palou. À tous, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà.
Bonsoir.
Voilà. Alors, on commence par Raymond Louété Katembo. Vous êtes député national du Palou. Monsieur Raymond Louété, vous êtes au téléphone. Vous êtes en ligne. Raymond
Louété. Je suis en ligne, monsieur le journaliste.
Monsieur Raymond Louété, nous venons de suivre l'extrait du Premier ministre qui a annoncé sa démission. Le Premier ministre a parlé de l'âge. Est-ce que c'est la seule raison de sa démission?
Effectivement, le Premier ministre est sincère en ce qu'il dit. C'est l'une des grandes raisons parce que il a déjà l'âge avancé et il estime qu'il peut s'occuper de l'organisation de son parti politique pour qu'il y ait la continuité de l'action. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a déclaré que la lutte qu'il a continuer durant tout le temps et maintenant il estime que les choses sont sur les rails. Il n'y a pas de mauvais qui puisse laisser la responsabilité aux autres.
Voilà. Germain Kambinga, vous êtes du MLC. Voilà, au Palou, on perdite que c'est bien l'âge qui est la raison de démission du Premier ministre Antoine Gizenga. Vous êtes de cet avis?
Écoutez, nous sommes heureux de constater, même si c'est un peu tardif, que la majorité revient à la raison, parce que c'est bien le mouvement de libération du Congo qui, au départ, tout en respectant énormément la stature de Papa Gizenga, qui, nous ne le contestons pas, de par l'histoire de sa vie, exerce une magistrature morale certaine sur notre aéropage politique, le MLC avait dès le départ considéré que l'âge avancé du Premier ministre, au-delà de toute bonne volonté, ne lui permettait pas d'imprimer à l'action gouvernementale le dynamisme nécessaire. Parce que effectivement, la primature, être Premier ministre, dans le contexte constitutionnel actuel, place le Premier ministre dans la position du maître d'œuvre. Ce n'est pas une position d'autorité morale. Donc à partir de là, l'immobilisme que nous dénoncions s'expliquait notamment par ce. Donc aujourd'hui, la majorité revient à la raison, mais c'est un peu tardif parce que finalement, nous avons l'impression que ce gouvernement laisse un héritage lourd à la nation, marasme économique, marasme social, convulsion sociale avec des grèves à répétition, la situation de la sécurité à l'est du pays. Sur le plan économique, nous avons ce grand monstre que constitue le fameux contrat de coopération avec la Chine, qui en l'espèce, nous insistons et nous le répétons, représente ce qui s'est fait de mieux. Permettez-moi cette figure de style depuis le régime conventionnel du bassin du Congo. C'est un exemple type du contrat léonin. Donc, autant, c'est un bilan, un héritage lourd. C'est un héritage lourd et nous sommes finalement curieux, à l'heure où le Premier ministre démissionne, de savoir quelle est la solution miracle que la majorité présidentielle va présenter au peuple congolais, parce que finalement, n'étant pas dans une logique de suicide collectif, ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir est-ce que le bien-être des Congolais va être dorénavant assuré, alors même que nous sommes à mi-mandat et que toute la première partie a été sacrifiée. On a sacrifié à l'égir la compétence à la convenance.
Merci beaucoup, Germain Kambinga. Alors, Maître Jean Bouillou, une démission tardive, vous pensez aussi?
Pas du tout. Une démission, d'abord, d'une élégance particulière. Mmh. Dans l'histoire de notre pays, nous n'avons connu depuis l'indépendance qu'une seule démission de Premier ministre.
Celle de Lunda Bululu.
Celle de Lunda Bululu. Nous venons de connaître la deuxième, celle du patriarche Gizenga, et je crois que c'est à la faveur de la sagesse de cet homme que nous pouvons constater que quelqu'un qui a réellement un âge incontesté peut dire « J'ai accepté de servir mon pays après toutes les péripéties de lutte. J'ai pris quasiment 2 ans et pour l'instant, je pense que je peux me retirer pour que ce travail soit continué par d'autres citoyens de ce pays. » Et ça, j'ai vraiment salué comme exemple de sagesse, de droiture, et le premier ministre Gizenga m'a rassuré dans ce qu'il est réellement.
Et Tabombeki n'y est pour rien là, on ne peut pas dire que sa démission peut-être fait déjà des émules un peu, non?
Oh non, c'est bon. deux contextes tout à fait différents, parce que contrairement à ce que dit
Germain
Kambinga concernant la démission, ici il ne s'agit pas d'une démission obtenue par la force, ce n'est pas une instance quelconque, le Parlement qui a dit voilà on te retire, non.
C'est par la sagesse.
C'est par la sagesse. Il a pris les devants, il dit écoutez, bon, voilà, j'ai donné de moi-même et maintenant laissons continuer l'histoire du pays pour qu'elle soit faite par d'autres Congolais.
Oui, mais Jean Bouillou, parlons franchement, est-ce que c'est seulement l'âge? Parce que c'est connu quand même qu'au niveau de l'AMP, du PPRD même, on ne sacrifiait pas que la gestion du Premier ministre. Vous ne l'approuviez pas du tout.
Non, je crois qu'il n'y a eu aucun acte qu'on peut relever de sa gestion, aucun acte qui a été taxé d'acte de corruption ou de mégestion.
Mais l'immobilier,
tout le monde a déploré, nous tous nous avons déploré l'âge avancé. Et je pense qu'il dit réellement que, étant donné mon âge, je pense que je dois laisser à d'autres.
Mais est-ce que c'est seulement aujourd'hui qu'à l'AMP, on constate qu'il était quand même âgé?
Non, ce n'est pas l'AMP qui lui a demandé de partir.
Oui.
C'est lui-même qui le constate et qui dit non, voilà, je rentre pas oublié.
Oui, mais en dehors de l'âge. Oui. Je reviens vraiment à la question en dehors de l'âge. Mais l'immobilisme, qui était d'ailleurs pointé du doigt par l'opposition, est-ce qu'au niveau de l'AMP, à un moment donné, vous n'étiez pas d'accord avec ça?
L'immobilisme dû à l'âge, c'est ça. Donc, on retourne toujours à la question de l'âge. Voilà. C'est pas comme le Premier ministre passé qui était mêlé à des histoires louches, à des vols, à des détournements, non. C'est ça qu'il faut retenir dans cette démission.
Oui. Mais si le Premier ministre n'avait pas démissionné, il aurait tout de même eu fort à faire avec vous, les députés nationaux, au cours de la plénière prévue ce vendredi, Jean Bouillou, parce que d'après votre président, Vital Kamerhe, président donc de l'Assemblée nationale, que nous avons reçu hier dans Dialogue entre Congolais, une pile d'interpellations attendait Antoine Gizenga. On écoute un extrait de Vital Kamerhe.
Sur ma table, il y a déjà plus de 4 interpellations du Premier ministre au sujet du social. Les interpellations, il y en a. Il faut que le gouvernement vienne nous expliquer pourquoi on nous a fait voter un budget pour ne pas l'appliquer. Même pas à 50%. L'argent qui sort, est-ce qu'il est destiné à 150 000 personnes ou bien c'est 20 000 personnes et la différence rentre dans les poches des individus? Ça, c'est très important. Ça peut dégager des économies substantielles pour modifier déjà les trains de vie des fonctionnaires, agents de l'État, policiers et militaires. Il appartient au gouvernement de veiller au quotidien du peuple congolais. Alors, s'il n'arrive pas à remplir ses missions élémentaires, on va demander au gouvernement de démissionner. C'est aussi simple que ça. C'est ça la démocratie.
Voilà. Nous avons un auditeur de Mbandaka, Joseph Aswande. Lui parle d'une fuite en avant, la démission d'Antoine Gizenga. Il se dit, est-ce qu'au Palou, les gens ne savaient pas que le président, le patriarche Gizenga, il était attendu pour rendre compte de sa gestion? Alors je vous pose cette question, Raymond Lete Katembo, député national Palou. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cette pile d'interpellations qui attendait quand même Antoine Gizenga à l'Assemblée nationale?
Mais une interpellation, monsieur le journaliste, c'est un acte normal du Parlement. Et quand le camarade parle de la vie sociale qui s'est détériorée, mais le MLC doit savoir qu'il a beaucoup contribué à la détérioration de la situation au Congo.
Comment
le camarade Antoine Gizenga a plutôt contribué à installer la démocratie et à vouloir que les institutions de la démocratie puissent démarrer. Vous l'avez constaté que toutes les institutions sont maintenant en marche. Les problèmes sociaux ne débutent pas à partir du gouvernement de Antoine Gizenga. Ce sont des problèmes sociaux qui nous ont été légués par plusieurs régimes que vous connaissez et qui géraient comme vous le voulez. Et dans tout ce que nous pouvons constater, même si nous disons qu'il y a des problèmes sociaux aujourd'hui, mais nous estimons qu'il y a eu amélioration sociale à tous les niveaux. Parce que
si nous considérons
les salaires laissés par l'ancien régime et le régime passé, vous allez constater que partout il y a eu une amélioration. Donc on ne peut rien reprocher au gouvernement de M. Antoine Gizenga. C'est évident que les attentes certes étaient nombreuses, mais on ne pouvait pas faire de miracles parce qu'on venait d'une situation catastrophique. Il fallait viser à mettre des choses sur les rues pour qu'on puisse marcher sur la bonne voie.
Et Antoine Guizenga, c'est quand même une grève des enseignants. Et puis il y a les infirmiers, le personnel médical.
Il n'y a pas de grève des enseignants, monsieur, s'il vous plaît. Moi, je viens de l'intérieur tout de suite là. À l'intérieur où je viens, j'ai laissé les enseignants en train de donner cours. Je ne sais pas où est-ce que vous avez constaté la grève des enseignants.
Bon, c'est connu, le CIECO et le SINECAT. C'est connu, il y a beaucoup d'écoles qui sont...
Non, les syndicats, ici, nous savons ce que les syndicats, ce sont les syndicats de plusieurs partis politiques qui font ce qu'ils font pour distraire la bonne opinion. Mais ils savent que le gouvernement actuel a fait des avancées très significatives. Et on peut considérer que maintenant les choses peuvent démarrer.
Et donc pour vous, la démission de Guizenga, ce n'est pas une fuite en avant.
Ce n'est pas une fuite en avant. Nous l'étangions depuis longtemps, mais on savait qu'il fallait qu'il mette d'abord de l'ordre, qu'il installe les institutions. Et c'est beaucoup. Installer les institutions, ce n'est pas chose facile. Dans moins de 2 ans, ce que le gouvernement Guizenga a fait, c'est déjà appréciable. Et nous estimons que si les autres continuent sur le même lancé, nous irons de l'avant.
Donc, c'est pas que Guizenga a peut-être préféré démissionner au lieu peut-être de se faire un peu humilié peut-être par le député qui devrait l'acculer, sûrement.
Nous n'estimons pas l'humiliation, parce que l'interpellation, ce n'est pas l'humiliation. L'interpellation, c'est l'explication. Écoutez, il y a des députés qui estiment que Guizenga pouvait par miracle, pouvait par baguette magique, mais l'argent de budget, c'est l'argent que les fonctionnaires doivent produire. D'autant plus que ces fonctionnaires ne sont pas encore tous en train de faire ce qu'ils doivent faire. Et vous savez dans quel état Guizenga a trouvé ce pays. Vous devez admirer ce qu'il a fait dans peu de temps.
La grogne sociale, c'est un autre sujet traité dans le dialogue entre Congolais l'année dernière, sous la liste des agents de l'État qui sont allés en grève pour des revendications salariales. Nous citons les médecins, les infirmiers et le personnel administratif des hôpitaux publics, mais aussi les enseignants. À l'instar des professeurs d'université, les enseignants du primaire et du secondaire avaient menacé d'entrer en grève avant le démarrage de l'année scolaire en cours. Guy Réginampala avait reçu pour des discussions dans le dialogue entre Congolais Jean-Pierre Kimbuya, secrétaire général du CIECO, syndicat des enseignants du Congo, André Malassi, président national du syndicat des écoles conventionnées catholiques SINECAT, et Tadé Onokoko, président de l'association des parents d'élèves du Congo à la PECO.
Cette émission Dialogue entre Congolais est une rétrospective de quelques grands moments de nos débats au cours de l'année qui s'achève.
Rentrée scolaire 2008-2009, comme les années antérieures, les enseignants menacent d'aller en grève. Pourquoi les revendications des enseignants ne trouvent toujours pas des solutions depuis des années? Comment faire pour que l'éducation redevienne une priorité en République démocratique du Congo? À ce sujet, quel est l'état des lieux dans les écoles à quelques jours de la rentrée scolaire? Notre confrère Guy Maquet a fait le tour de certains établissements de la capitale, suivant son reportage.
La rentrée scolaire pourrait intervenir le 1er septembre prochain si l'on se fie à l'ambiance observée ce lundi dans certaines écoles de Kinshasa. Au collège Bosengo, au lycée Kabamare et au collège Boboto, les parents sont déjà en train de payer les prêts. Chaque école a un taux approprié et l'initiative de fixer ces taux est fonction de chaque établissement scolaire. Cette maman a des enfants dans 3 écoles différentes.
En tout cas, on n'a rien demandé d'important, mais nous, parents, nous avons compris qu'on peut avancer quelque chose comme avance de Minerval normalement. On ne connaît pas le montant, mais on veut se débarrasser au moins de cette charge-là. Au lycée Kabamba. Normalement, eux, ils disent que l'argent qu'on demande là, c'est pour les ordinateurs, $90 et 10 000 francs de dispensaires. On est obligé de payer. On nous a demandé de payer 50 € par enfant à l'école primaire, au collège Boboto. L'avance du Minerval, normalement.
Dans certaines écoles, les frais payés par les parents sont exorbitants et sont considérés comme Minerval. C'est le cas des Lisanga où on exige à l'école primaire $180 par trimestre.
À l'école Lisanga, les frais d'inscription pour enfants, c'est $40 qu'on a demandé. Mais si vous payez avec un retard d'un mois, c'est $50. En major de $10, le frais, c'est $180 par trimestre. Les Minerval, c'est $540 par an.
Cependant, certains responsables d'école semblent s'opposer à la prise en charge des enseignants par les parents et exigent du gouvernement des frais de fonctionnement. Selon ces responsables, Ces frais ont été payés l'année dernière, mais ils sont insignifiants par rapport aux problèmes auxquels leurs écoles font face. Le directeur du lycée, Dr Chaumba, et celui de l'école primaire Nyeri, évoque ces chiffres.
Nous avons reçu de la part du gouvernement des frais de fonctionnement de l'ordre de 451,060 francs congolais pour la première tranche de l'exercice 2008. C'est dans les comptes de l'année soit 2007-2008 et c'est autour du 26 juin 2008 que nous avons reçu cet argent.
Nous avons reçu pour l'année scolaire 2007-2008. C'était le 26 juin 2008, donc premier trimestre seulement. C'était 206 794 francs congolais. Ce n'est pas suffisant. On ne saura pas fonctionner l'école avec 206 000.
Du côté du ministère, ils affirment travailler dans la transparence et promettent une série de décisions avant la rentrée scolaire. Écoutons le ministre de l'enseignement primaire et secondaire.
Je vous dis, nous travaillons vraiment en partenariat avec tout le monde, les associations de parents, les associations syndicales, et puis les spécialistes de l'éducation. Ce n'est pas normal qu'à chaque rentrée, qu'il y ait tout le temps des problèmes, alors que le dialogue, il est permanent. On essaie par tous les moyens de résoudre un certain nombre de problèmes. Avant la rentrée, en tout cas, il y a un paquet de décisions qu'on pourra présenter au public.
Bonsoir, Jean-Pierre Kimbouya.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CIECO. Je vous pose une question. Est-ce que les élèves reprendront le cours le 1er septembre prochain?
Oui, vous savez que je n'ai fait qu'entériner la décision de l'Assemblée générale du 22 août. Et les enseignants, les élèves, comme parce que c'est la volonté du gouvernement, quelles que soient les conditions, mais les enseignants ont refusé de reprendre les travails le 13 septembre 2008 jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un minimum de revendications formulées au mouvement seront satisfaites.
Quelles sont ces revendications que vous qualifiez de minimum? Quelles sont les revendications?
Et c'est l'uniformisation des salaires des enseignants avec effet rétroactif à partir d'octobre 2007 sur toute l'étendue du territoire national, l'application du budget des rémunérations 2008 conformément au barème salarial de Mbodi avec effet rétroactif, le paiement des mois de février et mars à des milliers d'enseignants victimes par Kinshasa-Ké dans presque tous les territoires de la République, la clarification du contenu financier du Fonds de promotion de l'éducation nationale à ce jour, palliatif à la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents, la suppression pure et simple de la prise en charge des enseignants par les parents sous toutes ses formes, frais d'intervention ponctuelle, transport, manque à gagner, conformément à l'article 43 de la Constitution, c'est la gratuité, au mémorandum des élèves du 3 juillet 2004, ainsi qu'à la circulaire du ministre des PSP du 21 juin 2007, et enfin, la mécanisation de nouvelles unités ayant travaillé pendant plusieurs années, surtout dans les provinces de notre pays.
Jean-Pierre Kimbouya, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, le gouvernement a le moyen de répondre favorablement à toutes ces revendications?
Et le gouvernement n'a pas de moyens pour les enseignants et les fonctionnaires, parce que les enseignants sont des parents, mais il a des moyens pour d'autres catégories de notre pays. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Il faut que le gouvernement puisse investir dans l'éducation. Et c'est une grande responsabilité, c'est une des attributions régaliennes du gouvernement.
Merci Jean-Pierre Kimbouya. Nous vous gardons dans cette émission. Nous avons aussi André Malassi. Bonsoir, André Malassi. Il est parti. Nous avons, à part Jean-Pierre Kimbouya, Monsieur Tadé Onokoko. Il est président de l'Association des parents d'élèves du Congo à la PECO. Quelle est votre position, Monsieur Tadé Onokoko? D'abord, je vous dis bonsoir.
Bonsoir.
Comment accueillez-vous la décision du CIECO et du CINECAT par rapport à la reprise de cours le 1er septembre prochain?
Eh bien, j'ai suivi comme tout le monde la déclaration de nos amis, du syndicat des enseignants, qui ont donné une forme de préavis, de grève. C'est devenu un peu une forme de coutume. Les rentrées scolaires dans notre pays ne sont plus aussi sereines qu'elles devaient être. Je déplore cet état de choses. L'enseignant, comme tout agent de l'État, a le droit de revendiquer, d'exiger et d'obtenir ce qu'il demande à son employeur. La fiche parfaite, nous en avons, nous, parents, passé de vivre cette situation à chaque rentrée. Les enfants qui veulent entrer dans le système scolaire, la première année primaire, qui se prépare à petit fièvre, ou à première secondaire, au premier graduat, ils sont depuis 3 ans surpris de se voir toujours fermer la porte au nez dans leurs écoles et aux universités à cause de ce menace de grève. Je ne dis pas que la grève n'est pas tombée, non, loin de là. Mais je me dis qu'on doit s'organiser entre employés et employés pour que ces choses ne puissent pas toujours revenir au début de chaque année.
Qu'est-ce que vous entendez par vous organiser? Parce que vous avez suivi le ministre de l'EPSP qui venait de dire qu'il y aura des décisions qui vont tomber à quelques jours de la rentrée. D'abord, est-ce que votre association est impliquée dans ces concertations avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire?
Nous prenons, nous, à l'APICO, part à toute réunion où notre présence est requise. Si c'est à cela que vous faites allusion, oui. Mais il y a de ces choses-là qui doivent se décider, au moins entre employés et employés. Nous ne sommes ni employés ni employés, nous ne sommes pas souvent associés. Quand les syndicalistes vont rencontrer le ministre de l'EPSP, nous ne sommes pas dedans parce que nous ne sommes pas employés, etc. C'est à cela que moi, je faisais moi allusion. En disant qu'on doit s'attendre, s'organiser, même pendant les vacances, pour qu'à la rentrée, afin que nous soyons fixés, que nos enfants rentrent à l'école tranquillement, qu'on ne les fasse pas toujours traumatiser.
Merci, M. Tadiro Nokoko. On me signale par la réalisation que nous avons pu joindre M. André Malassimouba. Il est président du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAD. Bonsoir, M. Malassi.
Bonsoir.
Est-ce que le 1er septembre prochain, les enseignants reviendront dans les écoles, c'est-à-dire qu'il y aura reprise des cours?
En tout cas, ça ne vient pas de moi. Et il est vrai que le 29 et le 30 juillet, nous avions réuni tous les délégués des différentes écoles catholiques et à la fin, une position s'était dégagée que le 1er septembre, le cours devrait avoir lieu dans toutes les écoles conventionnées catholiques.
Il y a eu également une autre assemblée générale. Vous n'avez pas pris part à cette assemblée générale d'hier?
Cette assemblée n'est pas reconnue par les syndicats. Pourquoi? Parce que, à la date du 30 juillet, les syndicats qui avaient réuni tous les délégués avaient levé l'option de ne plus tenir des assemblées conjointes syndicales jusqu'à nouvel ordre. Et nous pensons que ce qui s'est passé la fois passée à Saint-Pédis n'engage pas les écoles conventionnées catholiques.
Monsieur Jean-Pierre Kimbouya, votre réaction par rapport à ce que dit André Malassi, lui également, qui représente le syndicat national des enseignants, il est le président du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques.
Oui, mais ça passe de tout commentaire. Vous savez que le FIECO est l'un des grands syndicats qui évolue au niveau de l'ETSP, au niveau national supérieur et universitaire. Depuis le 21 juin 2008, nous avions transmis les revendications des enseignants au gouvernement. Nous avons des accusés de réception et que ça venait très avis. Vous comprenez que nous sommes de bonne foi, mais c'est le gouvernement qui n'a pas fait un pas vers nous. Ça n'engage que lui. Le FIECO a des membres dans beaucoup d'écoles catholiques et je vous cite les cas du maniement. Il n'y a que le FIECO qui est présent là-bas. Et je ne vais rien dire à ce sujet. Le syndicalisme ne se fait pas au ministère, dans les bureaux de l'État, dans les bureaux de l'employeur, mais ça se fait sur le terrain, dans les milieux du travail. Parce que être syndicaliste, c'est défendre à tous les niveaux, uniquement les intérêts de l'avenir du travailleur, aussi bien de la société qu'à l'avenir du travail. Ça n'engage que M. Malassi, et je pense que c'est une question de rapport de force aussi, et qui vivra, verra. Ce sont les enseignants qui vont travailler, ce ne sont pas les leaders syndicaux qui doivent faire des déclarations à la télé avec oui, l'enseignant derrière, mais nous voulons qu'une assemblée générale, telle que ça a été le cas le 22, et à la face de toute la nation, si tel est le cas, sera le cas, moi je pense que Malassi aura raison. Pour l'instant, je n'étais pas polémique à ce sujet.
Merci Jean-Pierre Kimbouya. André Malassi, je reviens encore vers vous. Pourquoi votre syndicat a décidé de reprendre le 1er septembre? Quelles sont les raisons essentielles? Parce que vous avez suivi Jean-Pierre Kimbouya qui a cité certaines revendications. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous puissiez décider de reprendre le 1er septembre prochain?
D'abord, nous n'avons plus un cahier des charges à déposer au gouvernement.
Comment cela? Les revendications des enseignants ne vous concernent pas?
L'année passée, nous étions en négociation et Jean-Pierre n'était même pas là, il a envoyé d'autres personnes. Et à l'issue de ces négociations, tous les points qui avaient été débattus, il y a des points qui avaient trouvé des solutions. Et tous les restes des points sont restés pendants. Et sur ce point-là, nous pensons qu'il est de bonne foi. Il faudrait que le gouvernement relance les négociations.
Fin de cette émission rétrospective de quelques moments qui ont marqué l'année 2008 et débattu dans Dialogue entre Congolais. Merci à toute l'équipe technique, Sylvain Baouwere, Jean-Noël Mokondo, Willem Lungamba, Héritier Sidiakala, Alain Goy et les autres. Et sans oublier bien sûr l'équipe de Dialogue entre Congolais, Claude Kianza, Kelly Kouté, Titi Mpoutou, Guy Maté, Pierrot et la Mégie, Magali Kabalé, Martin Sedoujangwe et tous nos auditeurs, votre serviteur Jean-Claude Toumakamanga. Je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne année 2009. Thank you.